ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli. J'ai vu les hommes marcher sur la route des marais. J'ai vu les hommes tuer des hommes pour du pain. J'ai vu les hommes trembler de froid et de faim, courber l'épaule au ricanement d'un gamin, un gamin armé, et serrer leurs poings désespérés. J'ai vu les hommes baisser les yeux sous le regard du criminel et ne pas mourir de l'humiliation. J'ai vu les hommes aux visages indicibles et j'ai été consolée. Cette Agnus Dei est une pièce du compositeur estonien Arvo Pärt que j'ai choisie pour introduire cette émission de novembre consacrée à la poésie de Charlotte Delbo, dont vous venez aussi d'entendre un premier texte, qui fut publié en décembre 1946, accompagné de 6 autres, dans la revue Poésie 47, dirigée par Pierre Segers. Charlotte Delbo a alors 33 ans et cela fait un an et demi qu'elle est revenue de déportation. Ce poème est le seul qui ne sera pas republié dans sa trilogie intitulée « Auschwitz et après ». En fait, Charlotte Delbo n'a jamais publié de recueil de poésie, mais elle a toujours écrit des poèmes dont une grande partie ont été insérés dans ses différents ouvrages. C'est donc la première fois qu'un recueil de poésie est édité sous son nom. Il est paru cette année, dans la collection double des éditions de Minuit, et a pour titre « Prière aux vivants pour leur pardonner d'être vivants ». J'y ai donc puisé un certain nombre de poèmes pour partager avec vous cette écriture à la fois sobre et intense, qui donne à ressentir, mieux qu'aucun récit, la vérité d'une tragédie et ses effets à long terme. Charlotte Delbo publie la première partie de sa trilogie en 1965. Ça s'appelle « Aucun de nous ne reviendra », et c'est un témoignage de ses années de déportation. Dans un entretien qu'elle donne à cette occasion, Charlotte Delbo répond ainsi au journaliste qui lui demande pourquoi, ayant écrit ce livre à son retour des camps, elle a attendu 20 ans pour le publier. Ce que j'ai écrit a pour moi une importance très grande. C'est un livre qui me tient à la peau du ventre. J'avais la volonté de le faire et surtout le besoin de le faire. Un besoin que tous ont eu là-bas. Dire au monde ce que c'était. J'ai écrit d'un jet, porté. Et le livre est sorti de moi dans une inspiration profonde. Puis, l'ayant terminé, j'ai réfléchi. J'ai été prise de peur. Voyons, nous sommes là devant la plus grande tragédie que l'humanité ait connue, une tragédie aux dimensions gigantesques, et j'aurais l'audace de me prétendre au niveau de cette tragédie. J'aurais la prétention d'en rendre compte. Je voulais plus que rendre compte. Donner à voir. Comment savoir si j'y avais réussi? Il me fallait l'écrire tout de suite dans la palpitation, dans le frémissement du présent. Mais sur le moment, comment juger? Qu'est-ce qui dit que ce n'est pas un affreux pathos? Il m'a paru que le seul moyen d'en juger était d'attendre 15 ou 20 ans. D'ailleurs, c'était une détermination. Je l'avais dit à mes camarades quand j'étais encore à Ravensbrück. J'ai été transférée à Ravensbrück après Auschwitz. Et que je pensais à ce livre. Et puis, je ne voulais pas renseigner. Au retour des déportés, les gens étaient avides de détails. Ils voulaient savoir. Les journaux étaient remplis de comptes rendus. Nombre de déportés ont écrit des livres informatifs. On se levait à telle heure, on se couchait à telle heure, on faisait tel ou tel travail, l'appel, la soupe, etc. Toutes ces informations étaient extrêmement utiles. Mais moi, je n'éprouvais pas le besoin d'y contribuer. Ce à quoi je voulais atteindre, c'est à une information plus haute, inactuelle, c'est-à-dire plus durable, celle qui ferait sentir la vérité de la tragédie en restituant l'émotion et l'horreur. Voici quatre poèmes figurant au fil du premier récit de déportation, publié en 1965. Vous qui avez pleuré 2000 ans, un qui a agonisé 3 jours et 3 nuits, quelles larmes aurez-vous pour ceux qui ont agonisé beaucoup plus de 300 nuits et beaucoup plus de 300 journées? Combien pleurerez-vous ceux-là qui ont agonisé tant d'agonies? Et ils étaient innombrables. Ils ne croyaient pas à résurrection dans l'éternité. Et ils savaient que vous ne pleureriez pas. Ô vous qui savez, saviez-vous que la faim fait briller les yeux, que la soif l'éternit? Ô vous qui savez, saviez-vous qu'on peut voir sa mère morte et rester sans larmes? Ô vous qui savez, saviez-vous que le matin on veut mourir, que le soir on a peur? Ô vous qui savez, saviez-vous qu'un jour est plus qu'une année, une minute plus qu'une vie? Ô vous qui savez, saviez-vous que les jambes sont plus vulnérables que les yeux, les nerfs plus durs que les os, le cœur plus solide que l'acier? Saviez-vous que les pierres du chemin ne pleurent pas, qu'il n'y a qu'un mot pour l'épouvante, qu'un mot pour l'angoisse? Saviez-vous que la souffrance n'a pas de limite, l'horreur, pas de frontière? Le saviez-vous, vous qui savez? Une plaine couverte de marais, de wagonnets, de cailloux pour les wagonnets, de pelles et de bêches pour les marais, une plaine couverte d'hommes et de femmes, pour les bêches, les wagonnets et les marais. Une plaine de froid et de fièvre pour des hommes et des femmes qui luttent et agonisent. À Auschwitz. Cette ville où nous passions était une ville étrange. Les femmes portaient des chapeaux posés sur des cheveux en boucle. Elles avaient aussi des souliers et des bas, comme à la ville. Aucun des habitants de cette ville n'avait de visage. Et pour n'en pas faire l'aveu, tous se détournaient à notre passage. Même un enfant qui tenait à la main une boîte à lait aussi haute que ses jambes en émail violet et qui s'enfuit en nous voyant. Nous regardions ces êtres sans visage et c'était nous qui nous étonnions. Aussi, nous étions déçus, nous espérions voir des fruits et des légumes chez les marchands. Il n'y avait pas non plus de boutique. Seulement des vitrines où j'aurais bien voulu me reconnaître dans les rangs qui glissaient sur les vitres. Je levai un bras, mais toutes voulaient se reconnaître. Toutes levaient le bras et aucune n'a su laquelle elle était. Il y avait l'heure au cadran de la gare. Nous avons été heureuses de la regarder. L'heure était vraie. Et allégée d'arriver au silo de betteraves où nous allions travailler, de l'autre côté de la ville, que nous avions traversé comme un malaise du matin. C'était une seconde pièce d'Arvo Pärt, extraite de l'album Lamentate. Après ce premier témoignage de Charlotte Delbault, va surgir un second livre dans lequel elle décide de rassembler tout ce qu'elle sait ou peut retrouver sur les 230 femmes qui faisaient partie avec elle du convoi de 1943 pour Auschwitz-Birkenau et dont 49 seulement reviendront des camps de la mort. C'est l'objet d'un deuxième ouvrage paru aux éditions de Minuit sous le titre « Le convoi du 24 janvier ». Sur sa lancée, Charlotte Delbault s'attelle au deuxième volet de sa trilogie, qui va paraître en 1970, et dans lequel elle évoque son transfert à Ravensbrück en 1944, puis la libération des camps et le retour en France. Elle lui donne un titre inspiré d'un vers de Claudel, une connaissance inutile. Et cette fois, ce sont 31 poèmes qui vont être insérés dans son récit, dont un certain nombre sont dédiés à son mari, Georges Dudac, militant communiste et résistant, fusillé au Mont-Valérien en mai 1942, à l'âge de 28 ans. Voici pour commencer trois poèmes qui disent la douleur de perdre l'homme qu'elle aime et qu'elle n'aura connu que pendant 10 ans. Puis, vous entendrez une série de 5 poèmes qui reflètent chacun cette tension temporelle entre le vécu du camp et le souvenir qui en demeure, entre le passé, indélébile, et le présent, depuis lequel on l'interroge. Je lui disais, mon jeune arbre, il était beau comme un pin la première fois que je le vis. Sa peau était si douce la première fois que je l'étreignis, et toutes les autres fois, si douce, que d'y penser aujourd'hui me fait comme lorsqu'on ne sent plus sa bouche. Je lui disais mon jeune arbre lisse et droit quand je le serrais contre moi. Je pensais au vent, à un bouleau ou à un frêne quand il me serrait dans ses bras. Je ne pensais plus à rien. Je l'appelais mon amoureux du mois de mai, des jours qu'il était enfant, heureux tellement. Je le laissais, quand personne ne voyait être mon amoureux du mois de mai, même en décembre. Enfant et tendre, quand nous marchions enlacés. La forêt était toujours la forêt de notre enfance. Nous n'avions plus de souvenirs séparés. Il embrassait mes doigts, ils avaient froid. Il disait les mots que disent les amoureux du mois de mai. J'étais seule à entendre. On n'écoute pas ces mots-là. Pourquoi ? On écoute le cœur qui bat. On croit pouvoir toute la vie les entendre, ces mots-là, tendres. Il y a tant de mois de mai, toute la vie à ceux qui s'aiment. Alors, ils l'ont fusillé un mois de mai. Je l'aimais parce qu'il était beau. C'est une raison futile. Je l'aimais parce qu'il m'aimait. C'est une raison égoïste. Mais c'est pour vous que je cherche des raisons. Pour moi, je n'en avais pas. Je l'aimais comme une femme aime un homme, sans mots pour le dire. ce point sur la carte, cette tache noire au centre de l'Europe, cette tache rouge, cette tache de feu, cette tache de suie, cette tache de sang, cette tache de cendre, pour des millions, un lieu sans nom. De tous les pays d'Europe, de tous les points de l'horizon, les trains convergeaient vers l'innommé, chargé de millions d'êtres qui étaient versés là sans savoir où c'était, versés avec leur vie, avec leurs souvenirs, avec leurs petits mots et leur grand étonnement, avec leur regard qui interrogeait et qui n'y a vu que du feu, qui ont brûlé là sans savoir où ils étaient. Aujourd'hui, on sait, depuis quelques années, on sait. On sait que ce point sur la carte, c'est Auschwitz. On sait cela. Et pour le reste, on croit savoir. Yvonne Picard est morte, qui avait de si jolis seins. Yvonne Bleck est morte, qui avait les yeux en amande et des mains qui disaient si bien. Mounette est morte, qui avait un si joli teint, une bouche toute gourmande et un rire si argentin. Aurore est morte, qui avait des yeux couleur de mauve. Tant de beauté, tant de jeunesse, tant d'ardeur, tant de promesses, tout un courage des temps romains. Et Yvette aussi est morte, qui n'était ni jolie, ni rien, et courageuse comme aucune autre. Et toi, Viva, et moi, Charlotte, dans pas longtemps, nous serons mortes, nous qui n'avons plus rien de bien. Vous qui vous aimez, hommes et femmes, hommes d'une femme, femmes d'un homme, vous qui vous aimez, pouvez-vous, comment pouvez-vous dire votre amour dans les journaux, sur des photos, dire votre amour à la rue qui vous voit passer, à la vitrine où vous marchez, l'un près de l'autre, contre l'autre, vos yeux dans la glace rencontrés et vos lèvres rapprochées. Comment pouvez-vous le dire au garçon, au chauffeur de taxi, vous lui êtes si sympathique, tous les deux, des amoureux, vous le dire sans rien dire, d'un geste. Chérie, ton manteau, n'oublie pas tes gants. Vous effaçant pour la laisser passer, elle souriant, paupières abaissées qui se relèvent, le dire à ceux qui vous regardent et à ceux qui ne vous regardent pas, par cette assurance qu'on a quand on est attendu dans un café, dans un square, cette assurance qu'on a quand on est attendu dans la vie. Le dire aux animaux du zoo, ensemble, qu'il est laid celui-ci, celui-là qu'il est beau, d'accord, sincèrement ou non. N'importe, y pensez-vous seulement, comment pouvez-vous et pourquoi le dire à moi? Je sais que tous les hommes ont aux femmes les mêmes gestes. Tes gants, chérie, tes fleurs que tu oublies. Chérie, m'allez bien à moi aussi. Je sais que toutes les femmes ont aux hommes le même ravissement. Il prenait ma main, protégeait mon épaule. Comment osez-vous, à moi? Je n'ai plus à sourire. Merci, chérie, tu es gentille. Chérie, lui allait bien à lui aussi. Et ce désert est tout peuplé d'hommes et de femmes qui s'aiment, et c'est le cri d'un bout de la terre à l'autre. prière aux vivants pour leur pardonner d'être vivants. Vous qui passez bien habillés de tous vos muscles, un vêtement qui vous va bien, qui vous va mal, qui vous va à peu près. Vous qui passez animés d'une vie tumultueuse aux artères et bien collés au squelette d'un pas alerte, sportif, lourdeau, rieur, renfrogné, vous êtes beau, si quelconque, si quelconquement tout le monde, tellement beau d'être quelconque, diversement, avec cette vie qui vous empêche de sentir votre buste qui suit la jambe, votre main au chapeau, votre main sur le cœur, la rotule qui roule doucement au genou. Comment vous pardonner d'être vivant, vous qui passez, bien habillé de tous vos muscles, comment vous pardonner? Ils sont morts tous. Vous passez et vous buvez aux terrasses. Vous êtes heureux, elle vous aime. Mauvaise humeur, souci d'argent. Comment? Comment vous pardonner d'être vivant? Comment? Comment vous ferez-vous pardonner par ceux-là qui sont morts pour que vous passiez bien habillés de tous vos muscles, que vous buviez aux terrasses, que vous soyez plus jeune chaque printemps? Je vous en supplie, faites quelque chose. Apprenez un pas de danse, quelque chose qui vous justifie, qui vous donne le droit d'être habillé de votre peau, de votre poil. Apprenez à marcher et à rire, parce que ce serait trop bête à la fin. Que tant soit mort et que vous viviez sans rien faire de votre vie. Je reviens d'au-delà de la connaissance. Il faut maintenant désapprendre. Je vois bien qu'autrement, je ne pourrais plus vivre. Les deux morceaux que vous avez entendus sont toujours des compositions d'Arvo Pärt. Le premier, My Heart's in the Highlands, fait partie d'un album tout frais paru en octobre 2024 qui s'appelle Anima Mea et qui réunit le trio Pascal, piano, violon, violoncelle, et le contre-ténor Paul Figuier. Une pièce qui m'a énormément plu lorsque je l'ai entendue interpréter sur France Musique récemment, au cours de l'émission du samedi après-midi, Génération France Musique, le live, que je vous recommande, car on y découvre toujours de la très bonne musique, avec la plupart du temps des jeunes ensembles très prometteurs. Quant au second morceau, il s'agissait d'une version pour quatuor à cordes de la pièce Fratresse, qui était conçue initialement pour trois voix. Charlotte Delbault est née en 1913 dans l'Essonne, de parents immigrés italiens. À l'âge de 17 ans, elle travaille à Paris comme secrétaire et adhère en 1932 au mouvement des jeunesses communistes. C'est là qu'elle rencontre son futur mari, Georges Dudac, très actif au sein du Parti communiste. En 1937, elle devient la secrétaire de Louis Jouvet, qui dirige alors le théâtre de l'Athénée. En novembre 1941, elle entre dans la résistance aux côtés de Dudac. Ils vivent cachés, mais en 1942, les arrestations se multiplient, l'étau se resserre autour d'eux et ils finissent par tomber aux mains de la police française le 2 mars 1942. Delbault est emprisonné à la Santé, Dudac est fusillé. En janvier 1943, elle fait partie, avec 229 autres femmes, d'un convoi pour Auschwitz, où elle restera un an avant d'être transférée à Ravensbrück début 1944, puis libérée en avril 1945. À partir de 1947, elle travaille pour l'ONU à Genève. Elle reviendra à Paris en 1960 pour travailler au CNRS, où elle termine sa carrière en 1978. Elle meurt en 1985, à l'âge de 72 ans. Le troisième volet qui vient clore sa trilogie en 1971 s'appelle « Mesure de nos jours ». Elle y inclut 14 poèmes dans lesquels elle évoque le vide qui saisit les femmes et les hommes de retour des camps, l'impossibilité de dire l'horreur traversée, l'impossibilité d'en revenir. J'ai résisté à l'injustice. Elle m'a prise et elle m'a remise à la mort. J'ai résisté à la mort, si fort qu'elle n'a pas pu m'ôter la vie. Pour se venger, elle m'en a ôté l'envie. Et elle m'a fait un certificat. Je l'ai là, signé d'une croix, pour me servir la prochaine fois. Peut-être avions-nous embelli notre attente. Notre attente, ce que nous attendions, tout de nous était tendu vers ce que nous attendions. Nos mains prêtes à prendre, dures, douces, sensibles, impatientes, nos cœurs prêts à donner, impatients, avides, inépuisables, nos mains et nos cœurs vers ce que nous attendions, qui n'était pas ce qui nous attendait. Vous ne croyez pas ce que nous disons, parce que si c'était vrai ce que nous disons, nous ne serions pas là pour le dire. Il faudrait expliquer l'inexplicable. Expliquer pourquoi Viva, qui était si forte, est-elle morte et non pas moi? Pourquoi Mounette, qui était ardente et fière, est-elle morte et non pas moi? Pourquoi Yvonne, qui était résolue et non pas Lulu? Pourquoi Rosie, qui était innocente et ne savait encore ni pourquoi vivre ni pourquoi mourir? Pourquoi Rosie et non pas Lucie? Pourquoi Mariette et non pas Poupette, sa sœur, qui était plus jeune et toute frêle? Pourquoi Madeleine et non pas Hélène, qui couchait près d'elle? Pourquoi, pourquoi? Parce que tout ici est inexplicable. Rentrer du camp, rentrer dans le rang. Après l'histoire, le tous les jours, après le maquis, le train-train de la vie. Nous disions que la vie sera belle quand elle sera libre, que la vie sera ardente quand nous serons libres, tout sera simple, transparent. Tout nous sera rendu avec la liberté, la beauté, l'amour, l'amitié, tout. La liberté, c'est tout. Il n'y aura qu'à vivre. Quoi de plus simple, de plus facile à celui qui sait souffrir, à celui qui sait mourir? Rentrer. Qui de nous osait penser plus loin? Rentrer, c'était déjà demander l'impossible, c'était tout demander. Oserait-on demander davantage? Rentrer. Tout nous serait rendu. Revenir, ce n'est pas tout. C'est revenir pour se remettre à vivre le tous les jours, à travailler et à faire des dettes, à faire des économies pour payer ses dettes, à vendre du savon parce qu'on ne sait pas faire autre chose, à retourner au bureau parce qu'on ne sait pas faire autre chose, dans la vie de tous les jours, à chercher un logement parce qu'on ne peut pas vivre autrement, à être à l'heure parce qu'au travail il faut être à l'heure. De quoi vous plaignez-vous? La vie, c'est la vie. De quoi rêviez-vous dans votre là-bas? De manger à votre faim? De dormir à votre sommeil? D'aimer à votre amour? À manger, à dormir, à aimer? Vous l'avez depuis que vous êtes rentré. L'histoire, c'est fini. Soyez heureux comme tout le monde. L'histoire, c'est un moment. Maintenant, c'est la vie. Et pourquoi donc vouliez-vous revenir? Sortir de l'histoire pour entrer dans la vie. Essayez donc, vous autres, et vous verrez. L'inconnu qui venait vers moi était, après tant d'années, le premier homme que j'avais envie d'embrasser. La ville était remplie d'hommes que je ne voyais pas. L'inconnu qui s'avançait était, après tant d'années, le premier homme que je regardais. Il me parlait, je ne l'écoutais pas, je regardais ses lèvres. J'avais envie de l'embrasser. Au moment où les êtres se séparent, je n'avais vu que sa bouche, et c'est avec un aussi fragile indice que je pars à sa recherche, dans la ville des matins, dans la ville bleue des soirs, toujours une autre ville, et qui m'échappe. Je cherche, et je sais que je ne le retrouverai jamais. La ville tout entière est vide et m'appartient.
Oh,
Ce morceau, Miserere, figure également sur l'album Anima Mea, dont je vous ai déjà parlé, et il a été écrit spécifiquement pour l'album par un compositeur français contemporain, Jean-Philippe Goud. Le dernier ouvrage de Charlotte Delbault, intitulé La mémoire et les jours, est publié en 1985, quelques mois après sa mort. Il contient 7 poèmes en lien avec la mémoire des camps, mais il figure aussi des textes sur d'autres tragédies plus récentes qui montrent que Charlotte Delbault avait conservé son esprit résistant et sa capacité d'indignation. Celui que j'ai choisi de vous lire concerne les exactions de la junte militaire au pouvoir en Argentine entre 1973 et 1987. Des faits d'ailleurs que l'actuel président argentin Milei tente aujourd'hui de minimiser en réduisant le nombre des disparus de 30 000 à 8 700 et en affirmant que l'action des forces armées à l'époque a tout au plus été marquée, je le cite, par quelques excès. Ce n'est sans doute pas l'avis de tous les descendants actuels des victimes de ces tortionnaires. Et ce n'était pas non plus la vie des folles de la place de Mai, ces femmes qui venaient chaque jour sur cette place de Buenos Aires, en bravant le danger, réclamer des informations sur leurs disparus. Charlotte Delbault a écrit un très beau texte sur ces folles de Mai, et le chanteur Sting les avait lui aussi évoquées dans une chanson qui s'appelle « They Dance Alone », que vous entendrez à la suite du texte. Elles tournent, les folles. Elles tournent sur la place, les folles de Mai, sur la place de Mai. Elles tournent, les folles d'inquiétude, les folles d'angoisse, les folles de douleur. Elles tournent sur la place de Mai, les folles de Mai. Si angoissées qu'elles ne peuvent crier, ne peuvent pas crier tant leur gorge est serrée, poignante d'une douleur qui tient tout leur corps, si fort qu'elles ne peuvent crier. Tant leur cœur est serré. Au crépuscule, elles arrivent par toutes les rues qui débouchent sur la place. Elles arrivent au rendez-vous, le rendez-vous de la souffrance intolérable. Elles arrivent pour crier en silence, puisque leur gorge ne peut plus crier. Elles se reconnaissent, se sourient pauvrement. Une nouvelle. Qui es-tu? D'où viens-tu? Mon mari, cette nuit, depuis ce matin, je cours partout, partout, porte de bois, visage de fer. Nous ne savons rien, revenez demain. Porte de bois, silence de plomb. Autre figure nouvelle, qui es-tu? D'où viens-tu? Mon fils, étudiant, cette nuit même. À chaque rendez-vous, leur nombre grandit. Et l'anneau qui tourne sur la place s'élargit. Elle tourne, les folles de Mai. Elle tourne, et c'est tout d'elles qui crie. Leur bouche serrée qui hurle, d'où le cri ne sort pas, crier à blanc. Leur corps déchiré et leurs larmes taries, ongles inutiles enfoncés dans les paumes durcies. Elle tourne, les folles d'angoisse. Elle tourne, les folles de douleur. Et ce cri que vous n'entendez pas, retentit dans le monde entier. Ils crient aux oreilles lointaines, leurs cris. Mais au mur du palais de Mai, au mur de la place de Mai, ils cognent sans écho. Rien ne veut entendre. Les murs sont sourds. Plus sourds encore les tortionnaires sans visage, les bourreaux. « Où est mon mari ? » crie celle-ci. « Où est mon mari ?» crie mille autres. « Vous l'avez torturé dans vos caves, dans vos casernes, dans vos salles de supplice. Vous l'avez torturé et qu'en avez-vous fait ? Qu'en avez-vous fait après ? Après ? Rendez-nous au moins son corps en lambeaux. Rendez-nous ses membres brisés. Rendez-nous ses mains écrasées. Rendez-nous-les que nous sachions. » Rendez-nous-les que nous puissions les enterrer. « Où est mon fils ? » crient mille autres. Où sont tous mes fils ? Crie cet autre encore. Dites ce que vous avez fait d'eux. Dites, dites, que vous avez-il fait, les innocents ? Rendez-nous son visage écrasé sous vos bottes. Rendez-nous ses yeux que vous avez fait gicler hors des orbites. Rendez-nous sa tête éclatée et cette boucle brune sur son front qu'il tortillait de son index quand il lisait. Rendez-les-nous. Rendez-les-nous que nous sachions. Rendez-les-nous que nous puissions les enterrer. Disparu ? Comment disparu ? Un homme ne disparaît pas, qui sait son chemin et le chemin de sa maison. Un homme ne disparaît pas, qui sait que sa femme l'attend à la maison. Un garçon ne disparaît pas, que sa mère a envoyé aux commissions. Des milliers d'hommes ne disparaissent pas, sans que leur pas laisse trace. Le poids d'un pas d'homme ne marque-t-il pas le chemin ? Et le poids d'une vie d'homme disparu. Comment osez-vous ? Le mien était parti au travail, le matin, comme d'habitude. Nul ne l'y a vu, il n'est pas revenu. Le mien était parti au tribunal. Nul ne l'y a entendu, il n'est pas revenu. Celui qu'il devait défendre a disparu. C'était le mien qu'il défendait, un ouvrier aux larges mains, les mains qui gagnaient le pain des enfants. De quoi était-il coupable celui-ci ? De quoi était-il coupable celui-là ? D'avoir dit des mots qui ont déplu, peut-être ? Ces conjectures, on ne sait de quoi il était accusé. Tous sont morts sans avoir été accusés. Le dit coupable est l'avocat qui devait lui prêter sa voix. Tous sont morts d'avoir été torturés, car ils sont morts, n'est-ce pas ? Au moins, dites-le. Dans quels ossuaires, dans quelles catacombes, dans quels charniers les jetez-vous, tous ces hommes que vous assassinez ? Par quel flot les faites-vous emporter, ces hommes que vous torturez jusqu'à la mort ? Une fois morts, il faut bien vous en débarrasser. Alors où ? Où sont-ils ? Où ? Où ? Où ? Dites-le-nous. Elle tourne, les folles de mai, les folles de douleur, les folles de malheur. J'ai mal à ces mains que vous avez écrasées sous vos talons de fer, ces mains et leurs caresses vivantes sur mon visage. J'ai mal à ces tempes que vous avez écrasées, sa tempe contre la mienne dans la tiédeur de la nuit. J'ai mal à sa poitrine que vous avez écrasée, poumons éclatés, cœur noyé, sa poitrine qui respirait contre la mienne quand il disait bonsoir en rentrant à la maison. J'ai mal à tout son corps que vous m'avez arraché, brute, sanglante. N'avez-vous donc ni femme, ni enfant, ni amante, brutes inhumaines ? N'avez-vous jamais mis votre joue contre la joue d'un enfant ? Votre main dans la main d'une femme, votre regard dans le regard d'un autre qui vous aime, brute, de quoi êtes-vous donc fait ? Brute, pas de la même chair que nous, l'espèce humaine ? Comment pouvez-vous feindre notre apparence quand tout de vous dément votre appartenance ? Elle tourne les folles de mai sur la place de mai. Elle tourne en juin et en septembre, en hiver et en été. Elle tourne et elle crie de colère, les folles d'angoisse, les folles de douleur, les folles de malheur. Dites, qu'en avez-vous fait de nos hommes, de nos enfants ? Qu'avez-vous fait de mon mari, l'avocat ? Vous avez brisé sa gorge pour étrangler sa voix. Qu'avez-vous fait de mon mari, le boulanger, la douce odeur du pain dans ses cheveux le matin quand il remontait de son fournil, la douce odeur du pain sur ses mains adoucies par la farine du pétrin ? Qu'avez-vous fait de mon mari, le journaliste qui savait toutes choses et les faisait savoir ? Qu'avez-vous fait de mon mari, le chauffeur de taxi qui connaissait tous les chemins par où vous faites disparaître nos hommes et leurs enfants ? Qu'avez-vous fait de mon mari, le médecin? Sa voix rassurante, son regard qui aidait à vivre. Qu'avez-vous fait de mon fiancé si timide qu'il attendait la nuit pour me dire qu'il m'aimait? Dites, dites dans quels ossuaires, dans quels cimetières, dans quels trous les avez-vous jetés, lambeaux de chair moite de souffrance, squelettes mis à nu par vos lanières et vos fers? Dites, dites, qu'en avez-vous fait? Elles tournent, les folles de mai. On veut les faire taire, rien n'y fait. Le monde entier entend leurs cris, le monde entier entend et se tait, indifférent, démuni, harassé de sa propre vie, sensible, compatissant, impuissant. N'y a-t-il rien à faire, vraiment? Tournez, folles de mai. Tournez jusqu'à ce que toutes les femmes du monde fassent la ronde devant les palais qui nous gouvernent, relèvent vos cris, jusqu'à ce que ces cris percent le cœur de ceux qui font des affaires avec vos tortionnaires. Tournez, folle de mai, tournez, tournez sur la place de mai, criez, femmes de Buenos Aires, criez jusqu'à ce que les spectres de vos suppliciés se lèvent comme autant de regards qui nous dévisagent et nous accuse, regards incandescents comme autant de brûlures qui nous arrachent la peau de l'âme et nous fassent hurler de votre douleur. Criez, jusqu'à ce que le monde éclate de honte, tournez, tournez sur la place de mai, folle de mai.
Dancing with their husbands, they dance alone. muchas danzan con los desaparecidos, danzan con los muertos, danzan con amores invisibles, con silenciosa angustia, danzan con sus padres, con sus hijos, con sus esposos, ellas danzan solas, danzan.
Avant de vous quitter, une petite annonce. Le jeudi 5 décembre prochain, nous vous donnons rendez-vous au Temps des Noyaux avec Voix Mêlée. Marilyn Dumange, Dominique Renoux et moi-même aurons le plaisir de vous faire découvrir la poésie de Hélène Lanscotte, qui sera notre future invitée du Printemps des Poètes 2025. La soirée débute à 20h. Elle mêlera mots et musique, puisque nous serons accompagnés par deux musiciens. Quant à nous, sur Radio B, nous nous retrouverons le jeudi 19 décembre. À bientôt. Ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli.